France Inter.
J'aime les chiens.
Mais alors, si vous aimez les chiens, pourquoi est-ce que vous en avez pas un, vous ?
Parce que ma femme ne les aime pas, elle préfère les chats.
Vous avez un chat ?
Non, ça fait des saletés. Ma femme aimerait un chat qui ne ferait pas de saleté.
Un chat, ça fait moins de saleté qu'un chien.
Ce qui fait le plus de saleté, c'est les seringues.
CO2, mon amour ?
Ma femme n'en voulait pas non plus, mais alors là, j'ai tenu bon, oui. Il m'arrive de tenir bon des fois. Les seringues, le chien du voisin.
Comment il s'appelle déjà ?
Brunet.
Non, le chien.
Tango.
Ah oui, voilà, Tango. C'était irlandais. C'est un sacré flair, ces petits chiens-là. Hein?
C'est des chiens de chasse, ça.
C'est des chiens de chasse si on les emmène à la chasse. Tango, ce serait plutôt un chien d'agrément.
Avec Denis Chessou.
Tango, ça s'écrit comme un tango ?
Non, mais comment voulez-vous que ça s'écrive ? Comme passo doble ?
Sur France Inter.
Eh ben oui, c'est bien de la nature et des animaux. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Marie Potier à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et Xavier Pestugia réalise l'émission. Alors, le chrysanthème est une fleur sympathique. Elle fleurit tard dans l'année, quand baisse la lumière et colorie nos cimetières. Boulevard des Allongés, cette fleur d'or est un bouquet d'éternité pour apaiser les vivants et nos morts. Un an après la fin de la guerre de 1914-18, Clémenceau appelle les Français à fleurir les tombes des soldats tombés au front. Et Borges nous disait que la vie est suspendue entre les souvenirs et l'oubli. Alors fleurissons les souvenirs des aimés, qui est aussi une répétition générale inconsciente de ce qui nous attend, mais sans se presser. Et c'est pour cela qu'il faut prendre soin des autres, de soi, de la santé globale des végétaux, du sapiens, des animaux, du climat, bref, de la Terre. La grande lessiveuse, prénommée Mélissa, bon là je suis désolé parce que cette fois encore ça tombe sur un joli prénom féminin, donc Mélissa ne venait pas pour écouter du reggae en Jamaïque et dans les Caraïbes. Les idées et la morale ne dirigent pas le monde, l'économie le dirige et fabrique la folie du monde. Elle est donc réchauffante pour tous, comme pour les cyclones à haute intensité qui se régalent, perfusés à la chaleur de l'eau. Tout est écrit par les chercheurs et balayé des cerveaux comme un cyclone le fait avec les habitants, les maisons. Un œil de cyclone, cyclope aux milliards de seaux d'eau, voit mieux l'avenir qu'un marchand d'énergie fossile, dealer de nos certitudes de progrès. Alors la COP30, de quoi accouchera ce nouveau bébé onusien tiraillé par les inégalités colonialistes d'un siècle et demi ? Cop, 10, 20, 30, une poule sur un mur, picorer du pain dur. Cette comptine amuse les enfants. Qu'ils gardent joyeux leurs rêves, leur imaginaire, leur château fort de sable sur la plage. Mais sur le sable, une fois triés les déchets plastiques de l'estran, eh bien les enfants lèvent la tête et regardent les grands passer au bulldozer, leur petit royaume tissé de tendresse et d'illusions. Car ce monde est sérieux, responsable, ce n'est pas une affaire de culotte courte, non. L'exemple vient toujours d'en haut quand il vaudrait mieux peut-être l'inverse. Il vient du peuple des cravates, des grands, des performants. Ceux-là ont-ils d'ailleurs tout vendu de leur jeunesse ? Cop, la poule sur un mur de Bellem couve un œuf. Et dans cet œuf sommeille la vie, ce miracle, et toutes ses composantes endormies prêtes à bondir. Une coquille, c'est une matrice, un blister génial, recyclable à l'infini. Oscar mondial de l'emballage, oui, mais si fragile, donc à manipuler avec respect. Là, la machine est passée et c'est une méchante omelette mondiale qu'il faut maintenant gérer. Chacun a ses intérêts, ses méthodes, ses recettes. Oh, n'attendez pas de plan unique. Les chiffres, alarmants, constats, conférences climatiques, comment dire. On s'agite, on panique, mais au fond, tant que la voiture nous attend sagement au parking et qu'on pourra rentrer chez soi, eh bien on s'en fout. Le climat, ça ne percute pas, sauf quand on est touché directement et que notre assureur nous dit « Ah, je ne vais plus pouvoir vous assurer ». Comment se mettre d'accord sur une cause commune à 8 milliards d'individus totalement inégaux ? D'ailleurs, vous remarquez bien que pour un budget ou un climat, un même combat, c'est une pétaudière, c'est une cour d'école en bouscule. C'est quoi la vie dans un monde en bascule, qui joue au toujours plus, au bord de la falaise, qui n'avance pas, recule, oui, mais il y a la falaise. Le problème, c'est que nos technicistes sociétés veulent vivre jusqu'à 120 ans en fumant 3 paquets de cigarettes par jour. Alors, COP 30, une poule sur un mur, oui, les enfants, il y a encore un œuf. Mais gare aux dates de péremption. Sinon, les chrysanthèmes viendront fleurir nos âmes un peu plus tôt que prévu, sans crier. Attention. Alors cette semaine, on va encore prendre l'air. Mais oui, on va rencontrer le créateur des géoparcs. Si vous ne savez pas, vous allez tout savoir sur les géoparcs dans les Alpes de Haute-Provence. Donc à la géologie assez époustouflante. Et puis après, nous cheminerons vers une source secrète. C'était David Byrne et ses trompettes, donc choisies par Valentine Chédebois dans la playlist. Alors, je vais vous présenter maintenant deux personnages qui ne se connaissent pas, mais tous deux vont à la source du temps, des pierres et des roches, qui racontent la terre pour l'un, et à la source des végétaux, ce sera en deuxième partie, et de la naissance de l'eau pour l'autre. Nous partons avec Guy Martini dans les Alpes de Haute-Provence.
Si on parle de digne, les Alpes de Haute-Provence, je l'ai en moi. Les cailloux ici, je les ai en moi. Donc quelque part, je n'ai plus besoin de les voir. Après, ce que je recherche, c'est l'énergie des lieux. Et dans les géoparcs, on travaille énormément sur les lieux sacrés. Des lieux oubliés, on en retrouve plein. Donc retrouver ces lieux sacrés, ça me paraît intéressant, à côté d'une lecture scientifique un peu basique des choses. Donc oui, on a la lecture, j'ai la lecture scientifique, mais je suis plus sensible aujourd'hui à certaines subtilités des paysages et de trouver et de sentir avec les populations locales des lieux de force.
Guy Martini est donc géologue, il est enseignant et il a créé la réserve géologique de Digne devenue Géoparc. Alors c'est quand même le créateur avec l'UNESCO du label Géoparc en France et dans le monde. Il a eu cette très belle intuition. Nous sommes au nord de Digne, dans les très belles Alpes de Haute-Provence. Si vous remontez vers le nord, vous allez à la Seine, vous allez vers l'Ubaye. Et donc nous sommes au bord du Bess, donc cette rivière, au milieu de millions d'années de roches travaillées par le vent, les eaux, la tectonique des plaques. Et c'est un lieu absolument de référence mondiale si on aime la géologie. C'est un bout d'énergie en fait du monde qui parle de la Terre et accessoirement de nous, de notre relation à ce qui était avant et sera après l'espèce humaine. Alors Guy Martini, c'est un arpenteur de la Terre, c'est un déployeur de la frise du temps, mais aujourd'hui on va s'intéresser beaucoup aux créateurs donc, de ces géoparcs. Alors on connaît des labels UNESCO, le patrimoine mondial, les réserves de biosphère, mais que sont en fait les géoparcs?
C'est un réseau qui s'ancre dans des territoires ruraux, déjà dans les Alpes de Provence, à Digne, et qui s'est monté avec trois autres territoires européens, en Grèce, en Espagne et en Allemagne. Ouais. Et ça a été une aventure qui a commencé dans les années 96, pour aboutir aujourd'hui à un programme complet de l'UNESCO qui regroupe en 2025 229 territoires dans 50 pays. Tout ça, c'est parti de Digne, de ces montagnes et des Alpes de Provence, où s'est forgée cette définition de mémoire de la Terre, de notion de protection de tous ces fossiles, de tout ce passé de la Terre qui était absent jusqu'alors dans une vision globale du monde. Date importante, 91, où a été adoptée la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre, qui est à la base de l'histoire en fait des géoparcs qui maintenant recouvrent plus de 50 pays.
Un rocher, symbole de l'importance de la géologie, mémoire de la Terre et de la vie. Digne est le berceau historique et mondial de cette prise de conscience.
On a été le premier géoparc au monde, puisque si maintenant aujourd'hui il y en a 147, c'est parce qu'il y a eu d'abord celui de Digne, de Haute-Provence.
Une délégation d'experts internationaux est présente sur le territoire et visite ces lieux emblématiques pour revalider, comme cela se fait tous les 4 ans, le label UNESCO Géoparc, avec un leitmotiv.
On devrait mettre l'accent sur le lien entre les êtres humains et la Terre. Et on devrait comprendre que l'être humain ne peut pas vivre sans la Terre. Il y a une coévolution, donc j'insiste sur le fait que les deux sont dépendants l'un de l'autre.
Alors un UNESCO Géoparc, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui doit considérer la mémoire de la Terre, la mémoire des hommes, et connecter tous les patrimoines locaux, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, le patrimoine immatériel, dans une optique non pas basique de conservation, mais dans une optique de développement, de nouvelles stratégies de développement économique intégrées au bénéfice de la population locale. Et on définit les géoparcs comme le nouveau territoire du 21e siècle.
Alors là, donc, nous sommes pas très loin des Clus de Barle, elles-mêmes donc, au lieu géologique, 150 millions d'années, je pense à peu près au compteur. Et là, on est face donc, à une dalle extraordinaire, c'est la dalle des ammonites. Voilà, alors là, ça nous
plus
rappelle...
Plus de 1500 ammonites sur 300 mètres carrés, qui correspondent à un fond de mer qui existait ici il y a plus de 180 millions d'années au Sinémurien.
Ça s'est passé comment? Il y a d'abord eu donc, ces ammonites, il y a eu leur mort, donc il y a eu après coquillage ou coquilles, après il y a eu sédimentation et elles se sont retrouvées fossilisées.
Et après, avec le temps, les sédiments qui sont indurés et qui ont fait ce calcaire qui nous permettent de voir aujourd'hui cette vie marine disparue. Donc il y a des ammonites, mais il n'y a pas que des ammonites. Il y a quelques nautiles, il y a d'autres fossiles associés. Et donc en regardant ce site, on peut reconstituer le paléo-environnement qui existait dans cette mer de 180 millions d'années.
Alors c'était quoi la vie d'une ammonite?
Pour l'imaginer, il faut les comparer avec les nautiles. Les nautiles qui vivaient ici, ils existent depuis 400 millions d'années. Mais ce qui est très très curieux, c'est que les ammonites ont disparu à la fin de l'ère secondaire, 65 millions d'années, avec les dinosaures, etc. Mais les nautiles qui vivaient avec les ammonites ont continué à vivre. On les retrouve encore aujourd'hui, vivant dans les mers indonésiennes, etc. Donc en regardant vivre le nautile aujourd'hui, on a une idée approximative du mode de vie de ces ammonites.
Alors là, Guy, on a changé de lieu, on n'est pas très loin, donc on a remonté cette vallée du Bess, et donc on n'est pas loin des Clus de Barle. qui sont une merveille. Alors là aussi, c'est une mémoire, c'est une archive, quoi.
Oui, enfin là, on est devant les clus du Pérouet, hein, où on voit la route qui passe à côté, ce petit tunnel qui correspond à la route qui a été faite dans les années 1910.
Qui a dû être complètement dingue, d'ailleurs, à fabriquer.
Ah, ça doit être une aventure, ah, ouais, de passer de Digne jusqu'à Barnes. Et quand on regarde cette falaise, on voit l'histoire à la fois de la mise en place des Pyrénées et de la mise en place des Alpes. Donc on voit un double mouvement.
Des plaques qui se sont un peu télescopées, quoi.
Ben oui, on va regarder des couches du Jurassique supérieur qui sont de 130 millions d'années, ouais, au contact de couches de l'Oligocène, on parle d'une quarantaine de millions d'années, et inversé. Donc il y a eu un système de mouvement, le premier plissement correspondant à la formation des Pyrénées, des plis qui sont est-ouest, et ensuite, 35 millions d'années, la formation des Alpes avec des plissements nord-sud, plus ou moins. C'est un lieu emblématique de la géologie qui est étudié depuis plus d'une centaine d'années, qui est couplé aussi avec des sites extraordinaires, parce que là, on parle de tectonique, mais juste avant les clous, on n'a pas pu s'arrêter, Denis, mais on a un site avec des empreintes de pas d'oiseaux fossilisées. Ouais. C'est-à-dire, on a un bord de plage avec ce qu'on appelle des ripple max, hein, c'est les formes qu'on voit liées au mouvement de la houle, tu sais, qui te font comme des petites dunes, et sur lesquelles on marchait il y a une trentaine de millions d'années, des sortes de pluviers, et on peut suivre leurs pistes, leurs empreintes, durant quelques mètres. Et ça fait partie de cette histoire, les mouvements de la Terre, et cette présence de vie, d'environnement, de paléo-environnement, disparu.
Sauvage, je n'aime que ce qui est resté sauvage. Je préfère l'enfant dans les nuages. Rebelle, sauvage, sauvage. J'aime la mer et les oiseaux sauvages. Pas quand le pétrolier dans son sillage goudronne leur plumage.
Alors on a donc ce bass qui circule et qui a profité, on va dire, de la tendreté de la roche, hein, à la taper dans du calcaire. Et donc ça a permis donc d'ouvrir après ces clus de Barnes, c'était ça.
Oui, après, une fois les deux mouvements pyrénéens-alpins, évidemment, le relief a existé, et le relief s'est formé. Il s'est formé par l'érosion, qui a créé ces clus, et après, avec les hommes, il y a eu ce dialogue avec les hommes qui ont contribué à façonner le paysage que l'on voit aujourd'hui.
Pas beaucoup d'eau. Hein.
Non, pas beaucoup d'eau. Et là, vous l'entendez, en fait, on a des sons différents parce qu'on marche sur des galets. On a ces galets qui ont été roulés par le Bess, et tout ceci vient d'au-dessus de nos têtes, même si on n'y était pas. En fait, ça a dévalé, quoi, au fur et à mesure, et puis ça a été le travail de sape, non, c'est ça?
Ben oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme dans toutes les rivières, en regardant les galets, la différence des galets, on peut avoir une idée de toute la composition géologique qu'on a plus en amont. Donc là, tu vois, il y a des galets de différentes couleurs qui racontent des différentes périodes. Et rien qu'en regardant un petit morceau de rivière, on peut reconstituer une situation géologique globale de la vie de cette rivière.
Allez, petite traversée du Bess, là au soleil, qui nous régale. Là, on est sur la peau de la terre, en fait. Mm-hmm. Comment vous vivez cela? Vous avez besoin de cela? Pourquoi, profondément?
Si on parle de Digne, des Alpes de Provence, qu'est-ce que je pourrais te dire, Denis? Je l'ai en moi, j'ai plus besoin. Tu vois, quand je viens à Digne une semaine, je reste plutôt au centre-ville. J'ai du mal à me réaffronter à l'espace. C'est quelque chose que j'ai en moi de partout où je suis. Les cailloux ici, je les ai en moi. Donc, quelque part, je n'ai plus besoin de les voir. Après, ce que je recherche, c'est l'énergie des lieux. Et dans les géoparcs, on travaille, dans le patrimoine immatériel, on travaille énormément sur les lieux sacrés. Des lieux oubliés, on en retrouve plein. Ces lieux qui étaient la base de la connexion des populations locales avec la planète.
J'avais quitté le village pour trouver un peu de fraîcheur sous les grands arbres. Et puis, je me suis égaré dans la forêt. Alors, j'ai marché pendant des heures. Et puis, il a fallu voir dans l'évidence, je m'étais bel et bien perdu. J'avais envie de pleurer. Et tout d'un coup, des éclats de rire. Jamais j'avais entendu des rires comme ça. Du cristal. De la musique. La caresse du vent dans les arbres. Ah, j'étais subjugué sous le charme. Quand je suis arrivé devant un étang, c'était magique.
On parle de l'esprit des lieux. Qu'est-ce que ça pourrait être ici, c'est-à-dire dans ces 2000 km² de ce lieu géologique absolument incroyable, force et esprit des lieux?
Alors, cette réserve géologique, ce premier géoparc de l'UNESCO, n'a pas été créé dans un endroit quelconque. Non. C'est un endroit qui est plein de force. Tu sais, il y a quelques années, avant de partir, avec quelques années, là on parle d'il y a 20 ans, avec l'IUT, on avait eu envie de faire un programme qui est justement recherché vos lieux sacrés. Essayez de parcourir la montagne et avec un système de GPS d'indiquer les lieux qui pour vous sont sacrés et voir si d'autres personnes le ressentent de la même façon. Et voir si d'autres personnes ressentent de la même façon ces lieux que vous, ben peut-être qu'il y a une histoire derrière. Et peut-être qu'on peut trouver des choses. Et j'aimais beaucoup cette idée d'envoyer des gens parcourir le territoire sur d'autres critères qui ne sont pas la beauté, qui n'est pas la science. Est-ce que toi, tu vas ressentir quelque chose de spécial dans un lieu du territoire, et est-ce que ce lieu, il peut être partageable et il peut correspondre à d'autres personnes?
Guy Martini, qu'est-ce que c'est le secret des pierres et des roches qui nous voit passer comme un fétu de paille? Et là, je ne m'adresse pas qu'aux géologues.
Ah. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as employé le terme de peau. L'interrogation, elle n'est pas simplement au niveau de la peau, elle est au niveau du corps entier, de l'entité, de la planète. Et tu sais que les géoparcs, le nom, ça vient de Géo. Géo, Gaïa, qui était la déesse de la Terre-mère. Et cette vision, cette interrogation de la Terre, ben, on la partage avec beaucoup de groupes indigènes, non? Pachamama, qu'est-ce que c'est? Et les géoparcs en Amérique du Sud, ben, ils fonctionnent parfaitement parce que les populations locales ont trouvé une définition de territoire qui correspond complètement à leur vision cosmogonique, à la relation qu'ils ont avec la planète, tu vois.
Ils n'ont pas été coupés.
Non. Moi, ce que je peux te dire, c'est que de partout dans le monde, quand je voyage, quand je sens que je trouve ou qu'on me montre un site sacré, un site avec une énergie, ben, je suis heureux.
Eh bien, au revoir Guy Martini, et puis bonne route de terre.
Au revoir Denis, et un grand merci.
Un livre s'appelle « Géoparc de Haute-Provence, un regard sur le temps ». Il est signé Marilyn Ferraud et Michel Boutin aux éditions du Naturographe. C'est très beau, ça, le Naturographe. Alors des géoparcs, vous en avez, je crois, à peu près 9 en France. Il y en a dans le Beaujolais, Causse du Quercy, Armoric, Luberon, etc. Et donc, nous, on va quitter un petit peu le lieu. On va remonter vers le nord. Tenez, d'ici quelques instants, on va aller à la source. On va au pied du Mont Granier d'ici 3 minutes.
Lampe qui s'éteint.
Le premier bonheur du jour, c'est pas mal, hein, ça.
Super chaud, en fait.
CO2, mon amour.
Et la rivière, c'est de l'autre côté, hein.
Avec Denis Chesson, sur France Inter.
Ah là, on sent bien qu'on était un peu dans les Cévennes avec un âne, hein. Ben voilà, mais écoute, peut-être pour après tout. Non, nous on avait laissé l'âne, mais on va se retrouver donc dans le département de la Savoie, on n'est pas loin de l'Isère, on est en Chartreuse. Et là, je vous avais dit, une personne qui va à la source, Guy Martigny, à la source de la Terre, là ça va être à la source, c'est vraiment à l'eau. Nous avons le granier qui quand même en impose et culmine à 1933 mètres au-dessus de nos têtes, une impressionnante face nord qui se dresse là comme ça au-dessus de Chambéry, qui fait quasiment 900 mètres, et un homme, là, nous attend, Yves Vigier. Yves Vigier, il est cheminot des herbes. Ouais, cheminot des herbes. Non, c'est un botaniste assez génial, et vous allez comprendre pourquoi, effectivement, on a voulu faire cette petite balade. Emmenez, je vous emmène, allez, venez.
Je ne cueille pas grand-chose, mais je cueille des mots, puis je les redistribue. Voilà, autour du savoir sur la botanique, mais aussi, moi, ce qui m'intéresse le plus encore, plus que la botanique, c'est l'ethnobotanique, la relation entre les végétaux et les sociétés, et les hommes. Et ça, c'est passionnant. Et on est dans des régions où il y a encore une grande habitude d'utilisation des plantes. Ça avait un peu disparu, hein, parce que, en gros, le savoir des plantes, autour du monde des plantes, c'était jusqu'à la guerre, à peu près, jusqu'à la dernière guerre. Et puis ensuite, ça a disparu avec la guerre, et c'est revenu avec les néo-ruraux. Ils ont réappris ces savoirs, et puis ils ont redéveloppé toute une... voilà, même de la cueillette, de la production. Maintenant, c'est assez vivant, en Chartreuse et dans les Bauges.
Ah, alors là, dis donc, sabot de Vénus. Parce que là, en fait, c'est un coin un peu... Oui, elle est un peu secret, quoi.
Ah, ben oui, même si beaucoup de gens commencent à le connaître. Mais ici, là, au col du Granier, et puis autour du col, on est dans la station de sabot de Vénus, Cypripedium calceolus. Voilà, wow. Si on veut faire l'intéressant, nous parlons latin.
Bon, orchidée.
Orchidée, la plus grosse orchidée d'Europe. La fleur, elle est pratiquement grosse comme le poing. Ici, on est dans la station au sens botanique, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y en a. Et là, il y en a beaucoup. Quand elle commence à fleurir au mois de... vers le 15 mai, ça dépend des années, mais enfin ça dépend de l'hygrométrie, tout ça, et de la neige qu'il y a eu. Et quand elle commence à fleurir, il y a une espèce de rumeur dans la vallée. Ça y est, ça fleurit, ça fleurit. Et alors tout le monde court avec son appareil photo et tout, parce qu'évidemment c'est protégé, on n'a pas eu le droit de les cueillir. Et il y a un engouement et puis une espèce de, je ne vais pas dire de vénération, mais d'admiration pour cette fleur qui est extraordinaire. Après, c'est une fleur émouvante. Et puis c'est une fleur, elle a deux parties de la fleur qui avancent vers la personne qui la regarde, un peu comme une offrande, comme ça. C'est assez extraordinaire, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, on fait des élixirs floraux avec ça. Les élixirs floraux, c'est-à-dire qu'on capte l'énergie de la plante. L'élixir qu'on fabrique sans couper la plante, évidemment sans la couper, avec le sabot de Vénus, il est préconisé pour la générosité. Et je trouve que c'est pas mal, quoi.
Dans cette merveilleuse époque, oui. C'est... Non, mais sinon, elle a des vertus. Là, je m'adresse aux pharmaciens que vous êtes.
Non, les orchidées, elles ont très très peu de vertus thérapeutiques. Non, elles ont la vertu d'être belles. C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien. Hein. Oui.
Ce sont des modèles botaniques très très complexes. En fait, ça servirait à rien d'aller en déterrer pour en replanter dans son jardin, parce qu'elles vivent en symbiose avec tout le biotope, avec des champignons, des bactéries. Donc, il faudrait pratiquement venir avec un tractopelle pour emmener tout le morceau.
Oui, bah,
et encore, je crois que ça marcherait pas.
Eh bien, Eva, les bimbos, ça va bien.
Tout va bien.
Regardez comme ils se balancent. Je les ai piqués hier, un petit mélange, gin et whisky. Ah, c'est tout à fait extraordinaire. Les plantes vivent, Margaret. Regardez ce mimosa. Il est complètement vivant. Il titube comme vous et moi.
Ces plantes, ces arbres, ces fleurs, ça me donne mal au cœur. Je déteste les fleurs. Le moindre bouquet de violette me donne la nausée.
On va continuer par là.
Oui.
La source, elle est juste à côté.
Eh oui, parce que là, en fait, nous allons à la source. Nous remontons.
Ah, mais l'hiver ici, c'est extraordinaire. L'hiver, c'est un côté complètement hors du temps. Oui. Là, on vient en raquette, surtout ici. C'est un bon pays pour la raquette, ici. J'ai jamais vu cette source tarie. Jamais, jamais. Été, hiver... Une fois, je me suis amusé à prendre sa température l'été, l'hiver. Elle est toujours à 7 degrés. Voilà, donc elle se jette là.
Ah, oui.
En fait, la source, elle est au-dessus. Là, on est juste en bas.
Alors, pourquoi vous aimez aller à la source et à celle-là en particulier?
Ah, je ne sais pas. C'est très curieux. Je l'ai découverte par hasard. Il n'y a pas grand monde à la connaître.
On a tout ce qu'il faut, là, comme trace. Dans la boue. Allez.
Ça va aller ?
Ah ouais, ça va. On traverse, hop.
On va s'attendre à un geyser, hein, c'est une petite source.
Oh, un petit pélargonium, là, oui, un géranium des bois, là. Les flaques de lumière qui traversent. On a dû être... On a du faillard.
Là, ça, c'est vraiment... C'est la forêt telle qu'elle devrait être. Parce que, justement, quand il y a ces accumulations d'épicéas, la forêt voilà, unitaire avec que des épicéas, là, les maladies se transmettent d'un arbre à un arbre. Alors que quand... Là, on a à la fois des épicéas et des résineux. Alors, autrefois, moi, j'avais toujours entendu dire qu'il ne fallait pas planter des feuillus avec des résineux, parce que les résineux donnaient des aiguilles acides, et donc, c'était pas bien. En fait, non, c'est pas vrai. C'est... Maintenant, d'ailleurs, dans les nouveaux modèles forestiers, on fait des forêts mixtes.
Puis on a cet arbre au pied vert.
C'est ça qui est étrange dans le dialogue qu'on a avec les arbres. Enfin bon, moi le faillard, donc le hêtre, comme ça, j'adore ces arbres-là parce qu'ils ont ce côté un peu maternel. On dit d'ailleurs que le chêne, c'est le roi de la forêt, mais le hêtre, c'est la reine, en fait. Et quand j'ai une décision, par exemple, à prendre, si je suis mal, si voilà, moi, il m'arrive d'aller toucher un de ces troncs de hêtre, et ça me fait du bien. Bon, c'est tout, hein. Parce qu'un peu comme une mère console son enfant, un peu. Je crois qu'il a ces vertus-là, quoi. C'est... Alors que, les épicéas, bon, ben, c'est différent, mais ben, les épicéas, c'est tellement magique aussi.
Que c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte ?
C'est pas une œuvre d'art.
Si ! Si un site est une œuvre d'art.
Quand j'entends un concerto pour violon, je pense forcément aux épicéas, à cause de l'âme, bien sûr. Puis tout ça se mélange bien, c'est le bois qui se décompose, l'humus qui se crée, les champignons. Dans ce coin-là, bon, je ne vais pas dire tous mes coins champignons, mais non. Dans ce coin-là, il y a quand même pas mal de pieds de mouton, par exemple. Mais là, avec la sécheresse qu'on a eue, il n'y a pas encore grand-chose cette année. Regardez là, ce petit faillard, là, un petit être, il traduit vraiment toute son histoire et ses drames, les drames de sa vie. Il est parti dans un sens, on sent qu'il a, peut-être c'est la neige qui l'a fait s'effondrer. D'un côté, donc il est reparti à la verticale, et puis encore une deuxième fois, il a été courbé et il est reparti à la verticale. Tout ça, alors ça peut s'expliquer scientifiquement. Hein. Mon maître Jean-Marie Pelt, il disait qu'il y avait dans les feuilles de ces arbres-là, il y a des, on appelle ça des gravitocytes, c'est une espèce d'oreille interne en fait, qui fait que l'arbre se retrouve une verticalité. C'est pas forcément la lumière du soleil qui l'attire, c'est en fait la gravité et cette oreille interne. Alors il y en a un là, bon, la plupart du temps ils sont droits. Sauf s'ils ont eu des accidents comme ça, des accidents de la vie. Quoi. C'est touchant, moi, je trouve. C'est des arbres qui ont une force de vie merveilleuse.
Les architectes qui ont fait les beaux-arts, ils n'oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruiz Dahl de peur d'écorcher la peinture, mais ils n'ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
Marchons vers la source.
Voilà,
oh là là,
elle est là. Donc, c'est en fait un trou qui fait à peu près un mètre. Là, je ne vais pas aller le titiller parce que sinon on mettrait de la boue dedans. Mais ça fait à peu près un mètre de profondeur. Et elle sort donc verticalement, puis après elle s'écoule comme ça. Et elle n'est jamais tarie. D'où elle vient, vraisemblablement, c'est une résurgence du granier. Mais vraisemblablement, c'est le granier, c'est un véritable gruyère. Hein, il y a énormément de cavités. Et il y a des mouvements d'air et il y a de l'eau qui condense sur les parois. C'est la condensation qui fait que progressivement, l'eau se regroupe comme ça et puis part en ruisseau. Dans d'autres régions, un petit peu plus loin, là, sous le Pinet, qui est juste la montagne à côté, il y avait un glacier. Un glacier souterrain. Qui est en train de disparaître, il n'y a pratiquement plus rien. Mais par contre, ici, il y a toujours de l'eau, parce que c'est de l'eau douée de condensation des cavités du granier. Quoi.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est une peau solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie.
Pourquoi vous vous sentez bien, vous, à cet endroit-là, à la naissance de quelque chose ?
Oui, la source, c'est vrai que ça a un côté, c'est une banalité de le dire, mais ça a un côté tellement revivifiant. C'est la vie, quoi, l'eau, c'est la vie, c'est... Ça sera sûrement un des grands défis dans les 50 ans qui viennent. Hein. Je me plais bien ici parce que ça a un côté un peu... C'est un peu comme un amphithéâtre autour. Hein. Il y a un amphithéâtre qui a été creusé par cette eau, puis moi j'aime bien le théâtre, alors ça me va bien.
Merci à notre cheminot des herbes qui a un site hein, d'ailleurs, donc Yves Vigier. Et puisque j'ai quelques instants, je vous cite un ouvrage aux éditions Glénat qui s'appelle « Jusqu'à la source, les visages de la Durance ». D'ailleurs, vous avez eu un CO2 Mon Amour sur les sources de la Durance. Hein, vous pouvez le retrouver, donc abonnez-vous au podcast hein, et abonnez-vous donc à CO2 Mon Amour. Vous avez un autre livre aux éditions, ça s'appelle « Eau ». Voilà, ça s'appelle « Eau » et c'est aux éditions Plume de Carotte. Vous avez tout sur l'eau. Et puis enfin... Cultiver la pluie et retrouver le chemin de l'eau. Cultiver la pluie, retrouver le chemin de l'eau, c'est aux éditions Terre Vivante et là aussi c'est extrêmement précieux, et ben comme la flotte. Merci à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission, qui l'a colorisée, à Camille Blanès et puis Sybille Clamins qui a mixé donc ce reportage. La semaine prochaine, un endroit aussi où il y a de l'eau que j'aime beaucoup, on va aller dans la forêt d'Aubrac avec un formidable photographe, Renaud d'Angreville. Il ne me reste plus qu'à vous retrouver, si vous le souhaiter sur Instagram, sur LinkedIn, et puis, de vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.